L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, cette émission et Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques avec Jonathan Junior Mambou sur le thème « La parabole du Samaritain ». Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui nous suivez présentement.
Merci pour ta disponibilité, ce temps de sacrifice.
Amen, que Dieu soit béni.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces instants que tu nous accordes. Il est écrit dans ta parole que là où deux, trois sont réunis, assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es au milieu de nous, au milieu de ceux qui nous écoutent, parce que Seigneur, tu fais chaque chose pour un but, et il y a un temps pour toutes choses. Que ce temps soit un temps béni, un temps où ton nom sera glorifié, un temps où nos cœurs vont être tournés vers toi, le chemin, la vérité et la vie. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Nous sommes toujours dans cette parabole, la parabole du Samaritain. Dans Luc 10, verset 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur aujourd'hui sur cette parabole?
En y versant de l'huile, le Seigneur nous dévoile en fait ses méthodes, ses traitements. C'est-à-dire, le traitement de Jésus est différent des traitements des hommes. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes de santé dus aussi quelque part à la désobéissance, par exemple, vis-à-vis de la parole. Il y a des maladies comme ça.
Tout à fait.
Elles sont des légions. Il n'y a pas que le sida. Mm-hmm. Il y a beaucoup de maladies que les gens contractent parce que eux-mêmes, ils ont suivi leur propre voie. J'étais une fois quelque part avec un monsieur en train de travailler. Là, il vient et il venait acheter quelques produits. Il se plaignait. Non, je souffre des infections urinaires, tout ça. Et quand j'ai commencé à converser avec lui, il va m'avouer que non, je sais que c'est parce que je suis allé avec cette fille-là. En fait, c'était dans la fornication. Et je regrette encore parce qu'elle n'est pas seule, elles sont à deux. Alors, je l'écoutais. Alors, il s'est plaigné de me demandant des conseils parce que je suis aussi domaine médical. Alors, j'essayais de lui donner les conseils, mais je l'écoutais parce que je savais là où je devais atterrir. Et enfin, je lui dis, mais tu sais, je suis un peu touché parce que c'est vrai. Ta souffrance là, avec les traitements que tu es en train de prendre, c'est bon. Je sais que ça va aller. Mais en fait, ça, ce n'est qu'un traitement physique. Ça va passer. Parce que ma crainte, c'est la maladie déjà qui a atteint ton esprit. Parce qu'en faisant ce que tu fais là déjà, tu n'es plus en communion avec le Seigneur. Et je lui dis franchement que mon frère, il faut laisser cette fille. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Pourquoi tu dois travailler pour ce qui ne nourrit pas? Il y a un verset qui dit ça dans la Bible.
Tout à fait.
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Parce que ce qui nourrit, c'est la parole. La parole nourrit l'homme intérieur. Mais il y a des gens qui veulent travailler pour ce qui ne nourrit pas l'homme intérieur. Je lui dis, mais tu dois penser à ta vie. Tu ne dois pas prendre la vie à la légère. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Et les traitements que le médecin de la terre apporte, c'est juste un traitement du corps.
Du corps.
Mais la seule personne qui peut traiter l'homme intérieur, c'est Dieu.
Je dirais même, et le corps, et l'homme intérieur,
oui.
C'est Dieu.
Oui, là tu as raison. Donc, Dieu apporte le traitement global. Il guérit l'âme, il guérit l'homme intérieur, il nous guérit aussi de nos maladies. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et en y versant de l'huile, Jésus-Christ voulait aussi nous enseigner un autre aspect. Parce que l'huile, en fait, dans la Bible, nous enseigne aussi l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est ce que Jésus-Christ fait. Lorsque quelqu'un quitte Jérusalem et descend vers Jéricho, la chose que Jésus fait pour ramener l'homme à Jérusalem, c'est de lui envoyer l'Esprit.
Tout à fait.
Il faut que l'Esprit aille toucher le cœur de cet homme et l'amener à changer. Ça, c'est la méthode du Samaritain, de Jésus-Christ. En tout cas, c'est une méthode qu'il a toujours utilisée. Même nous, qui sommes chrétiens, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, il nous amenait à comprendre que nous étions dans le mal. Même moi, personnellement, quand il m'est arrivé d'abandonner le Seigneur, au fait, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui est venu me toucher, me dire « Non, tu es dans la mauvaise piste. » Et je suis retourné vers Dieu. C'est ça le rôle de l'Esprit. Il verse, quand le Seigneur vient trouver un homme à demi-mort, battu par les brigands, c'est-à-dire par les situations à cause de sa désobéissance à la parole, un peu l'attitude de Christ avant de verser l'huile. Hein, c'est l'amour qu'il manifeste à l'égard même de ceux qui choisissent le péché. Il est ému de compassion. Il s'approche, il verse l'huile. Son souci, c'est que cette huile-là puisse toucher le cœur de quelqu'un et l'amener à changer. Ça, c'est le souci de Dieu. Il veut que l'Esprit touche les cœurs des gens. Que les gens ne résistent pas à l'Esprit. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça le travail de l'Esprit. Quand il vient, il convainc le monde. Il te dit clairement que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, quand j'ai reçu Christ, d'abord on me prêchait Christ. Mais je n'acceptais jamais Christ. Sur mon lit, dans la maison, rempli de fièvre. Alors là, j'ai vu ma mort. Alors j'ai commencé à penser à toutes les paroles que j'avais écoutées. En fait, ces jours-là, c'était le travail de l'Esprit. J'avais reçu les sémences, la parole. Mais maintenant, l'Esprit est venu toucher les paroles. Parce que la parole de Dieu, elle ne retourne jamais auprès de Dieu sans effet. Sans avoir accompli sa volonté. L'Esprit convainc. Donc, c'est l'Esprit qui touche. Pour ça, moi, je dis toujours, il faut parler. Même si la personne va se moquer de vous, il faut seulement parler. C'est l'Esprit qui fait le travail. C'est lui qui va toucher. Même quand la personne va rentrer, c'est l'Esprit qui convainc du péché. Qui vient amener l'homme à dire, lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Et l'homme change et il se comporte comme Zachée. Parce que Zachée, quand il a reçu Jésus dans sa maison, il avait décidé de remettre tout ce qu'il prenait injustement. Pourquoi? Parce que le Seigneur était entré dans sa vie. Et le Seigneur, il fait toujours ça. Il verse l'huile. Il convainc de la justice. En ce qui concerne du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit vient convaincre. Et lorsque je pense au travail de l'Esprit, je vois aussi l'Église primitive. Moi, j'encourage beaucoup les bien-aimés que nous sommes à lire le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre merveilleux où on voit l'œuvre de l'Esprit.
Quelqu'un même a même appelé l'Acte des Apôtres le livre de l'acte des Actes du Saint-Esprit.
Oui. En tout cas, c'est un livre qui nous montre le modèle des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus vraiment comme les chrétiens de l'Église primitive. Ils se comportent plus comme ça. Ils sont devenus comme des formalistes, des gens qui marchent selon les hommes, et des chrétiens qui prient presque plus, des chrétiens qui dorment seulement, qui jeûnent plus, qui trouvent des raisons. Or, l'Église primitive, c'était pas cette Église-là. C'est pour ça que c'était une Église puissante. Regardez par exemple l'attitude de ces gens quand Pierre était rempli de l'Esprit et quand il a prêché, où il a gagné 3000 âmes. Regardez l'attitude de ces gens qui ont été gagnés après avoir entendu Pierre. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est-à-dire, ils ont eu un cœur vivement touché.
J'étais bouleversé.
Oui. Seul l'Esprit de Dieu peut bouleverser le cœur de quelqu'un et l'amener à la raison.
Tout à fait.
Il peut bouleverser le cœur d'une personne, même si c'est une autorité. L'Esprit de Dieu est plus grand que les hommes. Et c'est l'arme par excellence. Je comprends même pourquoi Jean-Baptiste pouvait être tué par Hérode depuis, quand Hérode l'avait arrêté. Mais il n'arrivait pas à le tuer. Parce que quand il entendait, il restait perplexe. C'est comme ça que la Bible disait. C'est-à-dire, il manquait des mots. Il était conscient que ce que cet homme dit.
C'est vrai.
Malgré les gardes qu'il avait, il était, je peux dire, hypnotisé. Donc, en fait, nous avons besoin de l'Esprit.
Tout à fait.
Pour sauver ceux qui ont quitté Jérusalem vers Jéricho. Tu sais, il y a de ces textes hein, que simplement quelqu'un a écrit et qu'il a placé sur Internet. Que lorsque vous lisez seulement, l'Esprit vient vous toucher.
Ceci me fait penser au témoignage d'un évangéliste aux États-Unis qui disait qu'un homme était dans un bar, en train de boire de sa bière. Il avait beaucoup de problèmes. Et puis, quelqu'un se mettait à tourner les chaînes de télévision pour chercher un match. Et au moment où il tournait, il est tombé sur une chaîne chrétienne dans laquelle il a simplement entendu la phrase « Dieu vous aime ». On a tourné, il a demandé à ce monsieur-là de revenir sur cette chaîne religieuse. Il a refusé, il a donné de l'argent. Cet homme était sorti de ce bar-là, sauvé, et il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Mmh. Simplement une petite phrase. Mmh. Dieu vous aime.
Ça, c'est vrai. Et Jésus-Christ a dit quelque chose en pensant à ce que tu dis aux pharisiens qui ne voulaient pas que les hommes continuent à le glorifier. Hein, quand il disait, entends-tu ce que les gens disent? Jésus leur a dit, si vous ne voulez pas qu'ils crient, même les pierres, ils vont élever la voix, ils vont chanter pour moi, pour le Seigneur, pour le glorifier. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que moi, je suis fermement convaincu que même au travers de ce travail, de ce partage que nous faisons, s'il y a toujours, jusqu'à ces jours, des incrédules qui vont écouter, qui vont dire, ah, ils ont l'habitude de dire ça. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a des bonnes terres, des hommes qui vont écouter cette parole et la prendre avec un cœur honnête et sincère, comprenant que non, c'est vrai, ce sont des hommes, mais ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. Et cette voie-là va les conduire dans l'éternité. Et cette assurance, je l'ai comment? Je l'ai simplement de celui qui convainc. Et celui qui convainc, c'est l'huile. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le médicament même. L'antidote, l'un des antidotes que le Seigneur utilise pour amener l'homme vers lui. Pour amener l'homme à venir à lui. L'Esprit de Dieu, il convainc. Il amène l'homme à comprendre que tu vois, sans Dieu, tu ne peux rien. Donc, même ton argent-là ne peut pas te protéger. Même tes gardes du corps là, ils sont limités. Même ton chien, il est limité. Il y a des choses qui peuvent les dépasser. C'est très important. Le Saint-Esprit, il vient, il amène la conviction. La conviction sur le péché, il amène l'homme à la repentance et ensuite à la conversion. Ces deux mots sont très importants aussi à comprendre. Parce que la repentance, c'est une chose, la conversion, c'est aussi une autre chose.
Est une autre.
La repentance, en fait, c'est l'acte de regretter douloureusement ses erreurs et ses péchés. Mais cet acte-là n'est pas en fait un changement de direction. Mais c'est aussi, ce n'est pas aussi un changement de vie. C'est-à-dire quelqu'un peut...
On peut regretter,
oui.
mais on recommence
oui.
Juste après.
Ils sont nombreux, ils sont là toujours. Oh, je regrette. Oh, je regrette. Oh, je retombe. Oh, je regrette. Oh, je... Mais ils reviennent toujours. En fait, ça c'est l'attitude qu'a manifestée Judas Iscariote, Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. C'est un verset qui peut vraiment mieux nous aider à comprendre ça. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. C'est comme ça qu'on a dit. Ce Judas-là, qui s'est pendu, il s'était d'abord repenti. Il se repentit et rapporta les 30 pièces et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Voilà. Donc, il a regretté douloureusement ce qu'il avait fait. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Donc en fait, sa repentance n'a servi à rien. Sa repentance aurait servi à quelque chose s'il s'était converti.
Converti, tout à fait.
Voilà pourquoi nous disons que la conversion, elle, c'est l'acte par lequel celui qui s'est repenti décide de changer de comportement.
Tout à fait.
Il prend l'engagement de ne plus marcher selon la vanité de ses pensées, mais de marcher selon la parole de Dieu. Là, c'est la conversion. Alors pour ça, je vais lire Actes chapitre 2, le verset 21, pour un peu asseoir cette pensée. La Bible dit ceci, au verset 21. Actes chapitre 2, verset 21. Non, c'est Actes chapitre 3, verset 20, verset 19. La Bible dit ceci. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Tu vois? Donc, « Répentez-vous », ça c'est bien, « et convertissez-vous ». C'est-à-dire, il faut se repentir, mais ce n'est pas fini, et changer de vie. Prendre des décisions pour que le péché soit effacé.
Tout à fait.
Parce qu'on peut regretter, mais si on ne change pas, le péché
demeure.
Voilà. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est-à-dire, nous chrétiens sur terre, nous attendons un rafraîchissement. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il sera un rafraîchissement pour nous chrétiens. Alors que nous attendons ces rafraîchissements, nous devons faire quoi? Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir et nous convertir, changer de vie. Car Jésus-Christ sera un rafraîchissement pour ceux qui se sont attachés à lui sur la terre. Pour ceux qui ont choisi de le suivre sur la terre. En fait, je peux m'appuyer sur un verset pour mieux illustrer cela. C'est dans le livre de Cantiques de Cantiques, le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Le chapitre 4, verset 6. Cantiques de Cantiques, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. « Avant que le jour se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de Myre et à la colline de l'encens. » C'est-à-dire, avant que les rafraîchissements n'arrivent, Jésus sera un rafraîchissement pour nous les chrétiens, parce que la vie chrétienne sur la terre n'est pas facile. Elle est difficile parce qu'il faut s'attacher à Dieu. Et d'un côté, la chair a ses désirs, il faut les priver de ses désirs.
Les attirances du monde.
Oui, ça c'est pas facile. Mais on doit vivre avec ces situations, ces douleurs alors qu'on a sur la terre. Mais le jour où le Seigneur viendra, nous nous rendrons compte que tous ces sacrifices n'étaient pas vains. C'est comme un monsieur qui disait à un homme de Dieu que je connais, il s'est retrouvé en Suisse. Alors ce monsieur-là lui dit, mais comment toi tu peux rester comme ça? Il y a des femmes, il y a des revues, tu peux prendre une revue, il y a des numéros de téléphone, tu appelles une femme, il vient, tu satisfais tes besoins sexuels. Comment tu peux rester comme ça seul? Tu trouves ça c'est normal? Ça c'est un besoin que tu dois satisfaire. Donc en fait, un homme de Dieu dit, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas qu'en fait, en se livrant dans cette voie-là, tu te livres à l'ennemi, en fait tu te livres à la mort. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et cet homme a choisi de rester comme ça. Sa femme était loin, en Afrique, et lui il est resté en Europe. Il est resté seul, il est resté, je voulais dire comme ça, il s'est contenu à ne pas connaître une autre femme. Ce n'est pas toujours facile, mais le jour où le Seigneur viendra, tous ces chrétiens qui acceptent de souffrir pour la parole, le Seigneur sera un rafraîchissement pour eux. Nous attendons le retour du Seigneur et en attendant ce retour, nous devons rester à Jérusalem. Oui, le Seigneur nous donne l'huile, son huile nous aide à retourner à lui.
Et je voudrais dire par rapport au fait que le Seigneur donne de l'huile, il donne de l'huile à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin.
Mm-hmm.
N'oublions pas qu'il ramasse et qu'il vient à l'aide de tous les demi-morts. J'aimerais que nous lisions l'histoire de Élisée dans 2 Rois 4, mm-hmm. 2 Rois 4, de 1 à 7. Une femme d'entre les filles des fils, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Je tiens à insister. Et l'huile s'arrêta. Jonathan, une femme a des dettes. Élisée lui dit, « Écoute, marche par la foi, fais ce que je vais te dire. Prends des vases et remplis ces vases d'huile. » Nous avons dit que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Jésus-Christ, qui est le Samaritain par excellence, est en train de circuler dans ce monde. En train d'aller dans toutes les rues de New York, les rues de Paris, les rues de Tokyo, les rues de Kinshasa, de Bunia, de Katanga, de Lubumbashi, cherchant des hommes à qui il va donner de son huile. Ces hommes sont l'image de ces vases. Et il est en train de dire, présentez-moi des vases pour que je puisse remplir ces vases d'huile. Au verset 6, il est dit, et l'huile s'arrêta. L'huile ne s'arrêta pas d'elle-même. L'huile s'arrêta parce qu'il n'y avait plus de vases à présenter.
Voilà.
Tant qu'il y aura des vases vides, qui auront soif, qui auront besoin du Saint-Esprit, Jésus-Christ va verser de l'huile. Jésus-Christ va donner de son huile pour ranimer. Tu sais, en Israël aussi, l'huile était l'image, comme tu as dit à un moment, de rafraîchissement. C'est-à-dire que tu pouvais venir me voir. Israël, c'est un pays où il fait très chaud. Quand tu viens me voir, je te lave les pieds, je te montre à quel point tu as de l'importance pour moi. Mais je prenais aussi de l'huile et je versais sur ta tête. Pour que ça puisse te rafraîchir. Tu vois? Tant qu'il y aura des vases vides, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui auront besoin d'huile, l'huile va couler. Mais il arrivera à une époque où, quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus de vases vides. Il n'y aura plus de vases qui auront besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, vous êtes peut-être un demi-mort, peut-être même une personne morte. Et le Samaritain par excellence est en train de circuler, est en train de vous parler au travers de ce message pour vous dire, l'huile n'est pas finie. Si ma mémoire me trahisse, il y a un verset qui parle que l'huile ne manquera pas dans ta maison. Mon frère, ma sœur, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et si vous avez besoin du Saint-Esprit qui apporte la nouvelle naissance, qui apporte le rafraîchissement. Dieu est là, Jésus est là pour vous donner de cette huile. Il est là pour vous donner de cette huile. Mais tant qu'il y aura des vases vides, l'huile va couler. Le jour où il n'y aura plus de vases vides, l'huile va cesser de couler.
C'est très important, je vais lire ce texte juste pour appuyer encore cette idée de cette maman qui a vu s'arrêter l'huile parce qu'il n'y avait plus de vase. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 7, au verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Tu vois? C'est-à-dire, si tu as soif, tu viens, tu vas boire. Donc, c'est un problème d'avoir soif.
D'avoir envie.
Oui.
Venez, c'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis même tenté de dire, tu sais, il y a même des gens qui, soit ce ne sont pas encore des demi-morts, mais des gens qui sont en train de tituber. Ils titubent parce qu'on les a roués de coups, parce qu'on les a dépouillés, parce que le diable a tenté de les tuer. Dieu leur a fait grâce de ne pas être de demi-morts, de ne pas être des morts spirituels, mais des hommes et des femmes qui sont en train de tituber. Donc, s'il continue, il va perdre connaissance, il va tomber dans cet état de demi-mort. Mm-hmm. Et Jésus dit, venez, mm-hmm. je vais vous donner de l'huile. Mm-hmm. Je vais vous oindre de l'huile tout le corps. Mais il faut venir à Jésus-Christ. Il ne faut pas résister à Jésus-Christ.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »
Et c'est gratuit. Hein?
Oui. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est très important. Si Jésus disait ça, il voulait juste dire que si tu crois en moi, des fleuves vont couler en toi. C'est-à-dire l'eau, c'est aussi l'image de l'Esprit. De même que c'est aussi l'image de la parole, mais elle est aussi l'image de l'Esprit. Lorsqu'on croit au Seigneur, bien l'Esprit bouillit en nous. L'Esprit agite nos vies et nous dirige pour la gloire de Dieu.
Le Samaritain circule encore et il a de l'huile avec lui. Il cherche des hommes et des femmes pour qui il pourrait verser de son huile dans leur vie. Peut-être que vous avez besoin d'huile dans vos finances. Peut-être que vous avez besoin d'huile dans votre mariage. Peut-être que vous avez besoin de l'huile l'huile de Jésus-Christ dans votre commerce, dans votre entreprise, dans votre vie personnelle, dans votre vie de tous les jours. Le Samaritain par excellence, Jésus-Christ, est en train de circuler dans les villes et il cherche des hommes. Et en plus, tu sais, Jonathan, c'est gratuit. C'est lui-même qui a payé le prix. Il ne demande pas d'argent, il ne demande pas de jeûner, il ne demande pas de se flageller le corps, il ne demande pas de se meurtrir. Non, ce qu'il demande, c'est que vous veniez à lui.
Et ce que tu viens de dire est dans Ésaïe 55, verset 1. C'est-à-dire, venez acheter sans argent.
Venez.
Sans rien payer.
Vous n'avez pas, il n'y a rien qui puisse vous empêcher de recevoir l'huile du Saint-Esprit aujourd'hui dans votre vie. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes qui, comme tu as dit, qui vont se repentir et se convertir à Dieu. Mm-hmm. Ne vous limitez pas seulement à la repentance, mais convertissez-vous à Dieu. Mon frère, ma sœur, abandonnez la vie de péché et venez à Jésus. Si c'est cela votre désir, c'est très simple, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel aujourd'hui. Je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Et verse de ton huile dans ma vie et dans tous les domaines. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est « Venez à Jésus ». Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou sur la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine, que Dieu vous aide à marcher par l'Esprit.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.